Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business présente Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h, on est un petit peu en retard, mais on est là pour la deuxième heure de Good Evening en direct, bien sûr. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
Xi Jinping est à l'Elysée, donc il est en train de s'exprimer aux côtés d'Emmanuel Macron. On s'est pas mal parlé commerce international, sujet qui fâche, avec Ursula von der Leyen. Apparemment, on s'est dit les choses de manière assez explicite. On va retrouver Thomas Asportas, bien sûr, dans un instant depuis l'Elysée. Puis on va reparler avec nos experts de tout ça. Ils arrivent dans un quart d'heure.
Bien. Et oui, alors on va aussi parler du fait que l'État croit plus que jamais aux véhicules électriques. Il a signé aujourd'hui un nouveau contrat de filière avec la profession. Donc l'objectif n'a pas changé. C'est toujours le même, celui de vendre 800 000 voitures électriques en France d'ici 2027. Et puis on parlera Europe de la défense, toujours un peu balbutiante et surtout thème relativement absent pour le moment des campagnes européennes.
Qui sera avec nous pour parler de tout ça dans un quart d'heure? Nathalie Janson pour Neoma Business School, Bruno Coquet pour le FCE et Jean-Marc Sylvestre pour Atlantico. Ça nous promet un beau débat.
Bah, débat animé, ça c'est sûr.
Comme tous les soirs.
À tout de suite.
Good Evening Business, le journal.
Donc Xi Jinping et Emmanuel Macron qui sont en train de s'exprimer en ce moment depuis l'Elysée après tout un après-midi de travail. Emmanuel Macron a évoqué le souhait de son homologue chinois de ne pas voir appliquer les mesures provisoires qui visent le cognac français. Le chef d'État français en a profité pour rappeler l'importance de voir une Europe souveraine. Écoutez Emmanuel Macron.
Notre politique commerciale, économique, technologique n'est dictée par personne. Nous la souhaitons souveraine, c'est-à-dire indépendante. Et nous la souhaitons ouverte, confiante, mais nous voulons être en capacité de protéger nos intérêts. À l'égard de tous, elle n'est pour autant dictée par aucune montée des tensions à l'international. C'est pourquoi ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, c'est un cadre de concurrence loyal. À cet égard, je remercie le président aussi de son ouverture quant aux mesures provisoires sur le cognac français.
Voilà Emmanuel Macron, donc il y a quelques instants à l'Elysée. Bonsoir Thomas Asportas, on vous retrouve sur place. Alors, des échanges assez polissés, mais on l'a dit, on s'est dit les choses sur les questions commerciales de manière assez explicite quand même tout au long de cette journée, Thomas. Hein.
Alors effectivement, de manière franche et explicite, mais sur le fond, on peut pas dire qu'il y ait vraiment eu d'avancée, pour le coup, décisive. On peut pas dire que les positions se soient rapprochées entre la France et plus largement l'Europe et la Chine. On vient d'entendre le président, il y a peut-être un ouf de soulagement qui est poussé concernant la question des mesures de rétorsion concernant le cognac, en réponse, on le sait, aux représailles des enquêtes anti-dumping de l'Europe sur les constructeurs économiques chinois. On a aussi un certain nombre d'accords de coopération qui ont été annoncés aujourd'hui entre la France et la Chine, notamment dans l'agroalimentaire, l'aéronautique, les cosmétiques ou les vins. On a une quinzaine de contrats qui ont été annoncés pour des entreprises françaises comme EDF, Orano, Suez, Alstom ou encore Safran. Mais au-delà de ces annonces qui, vous en conviendrez, ne sont pas particulièrement spectaculaires, les positions de fond et de divergence n'ont pas été rapprochées. Aujourd'hui, on a toujours aujourd'hui une Europe qui est dans une relation déséquilibrée vis-à-vis de la Chine. On a un marché qui est beaucoup plus fermé, le marché chinois, que ne l'est l'Europe vis-à-vis des entreprises chinoises. On a des subventions qui ont bien sûr été une question qui a été abordée aujourd'hui, mais qui n'ont pas du tout été réglées, où la transparence n'a pas été faite. Et la présidente de la Commission européenne, qui s'est exprimée à la mi-journée, a eu des mots beaucoup plus francs, beaucoup plus cash, je dirais, que ceux d'Emmanuel Macron, comme on vient de l'entendre. Elle dit que l'Union européenne ne reculera devant aucune décision difficile pour défendre son marché. L'Europe, a-t-elle dit, ne peut absorber la surproduction massive de produits manufacturés chinois qui inonderaient son marché. Le président chinois a lui répondu que le soi-disant, je cite, le soi-disant problème de la surcapacité de la Chine n'existe pas. Donc vous voyez, chaque camp finalement est resté dans son couloir. Il y a eu des échanges francs et directs, mais les positions en vérité ne se sont pas véritablement rapprochées aujourd'hui.
Merci beaucoup Thomas depuis l'Elysée pour BFM Business. On parlera bien sûr tout ça avec nos experts. Effectivement, on entendra Ursula von der Leyen qui a été un peu plus cash sur la forme aujourd'hui qu'Emmanuel Macron lors de cette première journée de rencontre avec le président chinois. Et à leur hasard du calendrier, je vous le disais, c'est le jour où Xi Jinping débarque à Paris, que l'État a signé ce matin à Bercy le nouveau contrat de filière avec l'ensemble du secteur auto pour 4 ans. L'objectif, c'est toujours qu'en 2027, on vende en France 800 000 véhicules en France. Alors Bruno Le Maire l'a dit, nos amis chinois sont les bienvenus, mais il faut quand même que l'Europe accélère, elle aussi, écoutez.
La préférence est donnée à des véhicules qui ont l'empreinte carbone la plus faible. Le choix n'a pas été fait en fonction de l'origine du pays du véhicule électrique. Et l'industrie automobile chinoise est la bienvenue en France. Si demain BYD souhaite ouvrir un site industriel de production en France, il est le bienvenu. Nous avons d'autres constructeurs étrangers qui ont fait ce choix dans les années passées, je pense à Toyota, et nous n'avons eu qu'à nous en féliciter.
Voilà, ce nouveau contrat de filière donc signé ce matin entre l'État et le secteur de l'auto, ça aussi on en parlera avec nos experts jusqu'à 20h sur BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, ça bouge chez Vinci. On prépare la succession du patron Xavier Huillard. Vinci vient nommer au poste de directeur général opérationnel du groupe Pierre Enjolras. Poste qui n'existait pas jusqu'à présent. Le mandat de Xavier Huillard expire le 17 avril 2025, donc dans un petit peu moins d'un an. Et alors Atos, je vous le disais, encore du nouveau. Bonsoir Frédéric Simotel.
Bonsoir Guillaume.
Parce que ce matin, on a appris qu'il y avait 4 offres qui avaient été déposées sur le bureau des dirigeants. Et apparemment, sur les 4, il y en a déjà une qui a été retoquée ce soir.
Oui, le communiqué est tombé ce matin. Donc, 4 offres, effectivement, ont été déposées. Et l'une des 4 n'a pas été retenue par le conseil d'administration d'Atos qui s'était réuni hier soir. C'est celle de Bain Capital qui est arrivée en fin de semaine. Bain Capital qui jouait aussi la carte. Ce sont les actionnaires de Inetom, qui est l'une des grandes ESN aussi françaises. Alors, qui est retenue? Il y a Equity Investment, qui est le fonds contrôlé par Daniel Kretinsky. Il y a OnePoint, qui est la société dirigée par David Layani, qui est le principal actionnaire d'Atos, associé à Walter Butler. Et puis, il y a ce groupe de porteurs d'obligations de banque qui propose justement, un peu à l'image de Layani, une reprise globale du groupe. À One Atos, comme on le dit aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce One Atos, en valeur, dégagerait plus de valeur que si on démantelait un peu par petits bouts. Et c'est un peu ce qui est en train de changer. Le fait que l'État ait décidé de sanctuariser quelques-unes des activités d'Atos en disant voilà, c'est là, on n'y touche pas, c'est nous qui allons les reprendre avec des industriels, on se débrouille sur la partie défense, sur la partie nucléaire, on va peut-être en nationaliser certaines, voilà, ça c'est fait. Et bien justement, ça a libéré un peu les énergies de l'autre côté. Alors on a, je l'ai dit, ce plan de reprise par ses créanciers, ses porteurs d'obligations sur un One Atos. David Layani aussi, lui, prend le One Atos. Et Daniel Kretinsky, aujourd'hui, lui reste sur la partie infogérance. Il espère encore dégager certaines parties. Donc, on va voir un peu comment tout cela va se décider. Ce sera le 31 mai pour se décider. Et puis, il y a quand même un point sur lequel il faut voir, c'est que le marché des ESN, le marché des services IT est en train, la croissance se ralentit. Donc, il faudra voir aussi dans quel état Atos sera ensuite et s'il n'y a pas encore des coups de restructuration à prévoir derrière.
C'est dans un peu plus de 3 semaines, le 31 mai. Ça
vient vite.
Très, très vite, effectivement. Merci beaucoup Frédéric Simotel, contrôle bien sûr à 20h avec François Sorel, Tech & Co, toute l'équipe bien sûr sur BFM. Et puis retenez, avant d'aller sur les marchés, on a une grosse bataille à Hollywood. Qui va racheter les studios Paramount qui sont à vendre? D'un côté, Sony est candidat, de l'autre, vous avez Skydance qui est le producteur de Top Gun. Une voix à Hollywood pourrait faire la différence, celle de l'incontournable James Cameron apparemment. Nathan Cocampo.
Quand James Cameron parle, c'est tout Hollywood qui écoute. Interrogé par le Financial Times sur le rachat de Paramount, le réalisateur soutient l'offre de Skydance qui serait une énorme aubaine pour Paramount en ces temps difficiles. Sa voix est très écoutée, Titanic, Avatar. Le réalisateur est à l'origine des plus grands succès commerciaux de notre histoire, 3 films ayant dépassé les 2 milliards de dollars de recettes. Titanic étant d'ailleurs le plus gros succès de Paramount. Autre avantage pour l'offre de Skydance, société fondée par David Ellison, fils du patron d'Oracle, Larry Ellison, c'est déjà un partenaire privilégié de Paramount. Ils ont notamment produit Top Gun Maverick, le gros succès de 2022. Mais face à Skydance, une offre financière à 26 milliards de dollars vient d'être déposée par 2 autres poids lourds, Sony et Apollo. Un rachat redouté à Hollywood, car il signifierait l'absorption du studio Paramount, avec derrière une offre plus réduite et un risque de suppression d'emplois. Une bataille au sommet pour racheter un studio légendaire en difficulté ces dernières années. Paramount a été bousculé par l'arrivée du streaming, les grèves et la chute des revenus publicitaires.
Voilà la bataille pour le rachat des studios Paramount. Nathan Cocampo avec nous sur BFM Business. 19h11. On retourne sur les marchés. Je vous rappelle la clôture ce soir à la Bourse de Paris. Le CAC 40 qui grappille 0,5% quasiment. 7 996 points. À la clôture, bonsoir Aude Kersulec. Comment ça se passe à New York en ce moment, Aude?
Bien un peu moins prononcé que vendredi, mais on monte tout de même pour le premier jour de la semaine. Le Dow Jones qui prend 0,2%, le S&P 0,6% et le Nasdaq 0,7%. On reste dans cet élan. Alors, post-réserve fédérale, c'était mercredi dernier où Jérôme Powell a dit que le prochain mouvement, ce ne serait pas une hausse. Et post-rapport sur l'emploi, ça c'était vendredi, il y a eu deux données qui ont plu au marché. C'est les créations de postes qui ont été un petit peu moins élevé que prévu, puis la hausse des salaires aussi qui a décéléré, donc les investisseurs qui sont repartis dans l'idée que la baisse des taux, ça pourrait être pour le mois de septembre, donc voilà qui les rend optimistes et qui monte notamment sur les valeurs technologiques. Alors on a eu aussi ce week-end Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett qui a parlé, Berkshire Hathaway qui a publié un trimestre record, mais Warren Buffett qui a fait état d'investissement, de désinvestissement notamment sur Apple, et du coup, Apple qui perd un petit pourcent cet après-midi à Wall Street. Alors, en réalité, si Warren Buffett s'est délaissé d'Apple, c'est surtout pour des raisons fiscales. Il pense toujours que c'est un bon business. Voilà, pas de statistiques majeures, en tout cas, du côté des États-Unis. Et donc, on monte sur cet élan de vendredi.
Merci. De la tech. Merci beaucoup, Aude Kersulec, avec nous sur BFM Business. 19h13, on revient avec nos experts, avec Audrey Tcherkov dans un instant. Beaucoup de choses ce soir. Xi Jinping est à Paris. On a parlé commerce. On s'est parlé un peu cash avec Emmanuel Macron, Xi Jinping et Ursula von der Leyen. On va vous redonner tout ça. Le nouveau contrat de filière auto passé avec l'État pour 4 ans. Et puis, on parlera un petit peu Europe de la Défense. Tous les lundis jusqu'aux élections européennes, on va décortiquer un thème de campagne, ou plutôt un non-thème de campagne autour des européennes. On va parler défense pour le coup. Tout ça jusqu'à 20h, évidemment, sur BFM. À tout de suite.
BFM Business présente... Good evening business, les experts du soir.
Allez, 19h15, ils sont là jusqu'à 20h.
Et déjà pas d'accord.
Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir à tous.
Audrey Tcherkov, bien sûr, avec nous jusqu'à 20h. On a Nathalie Janson qui va arriver dans un instant. Professeur à Neom Business School. La vie parisienne, les bouchons, que voulez-vous, c'est comme ça. Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste à Atlantico, est avec nous. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Et Bruno Coquet, docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Bienvenue. Alors, beaucoup de choses ce soir, mais évidemment, la grande actu, on était à l'Élysée il n'y a pas longtemps, c'est l'arrivée à Paris en grande pompe du président chinois Xi Jinping, qui a été reçu dès la fin de la matinée par Emmanuel Macron, et qui s'est déjà entretenu aussi avec Ursula von der Leyen, pour le coup.
Oui, et qui a été visiblement plus cash pour dire au président chinois que l'Europe, ne se laisserait pas faire si les choses n'évoluaient pas côté chinois sur le plan commercial. Écoutez.
Nous défendrons nos entreprises, nos économies, nous n'hésiterons jamais à le faire si c'est nécessaire. La Chine subventionne des produits, les voitures électriques, l'acier inonde les marchés européens. En même temps, la Chine soutient sa production industrielle, sa demande intérieure ne suit pas. Le monde ne peut pas absorber les surcapacités chinoises. And this combined with a domestic demand that is not increasing. L'Europe n'hésitera pas à prendre des décisions fermes pour protéger son économie et sa sécurité.
Je vous rappelle que lors du dernier passage d'Ursula von der Leyen en visite officielle en Chine, on ne peut pas dire que le président chinois l'ait reçu en grande pompe. Donc, elle renvoie un peu l'ascenseur. Mais ceci dit, comment est-ce qu'on répond à un contexte aussi tendu avec d'un côté une Europe qui déclare que la Chine est un partenaire commercial déloyal à juste titre, mais avec une France qui a besoin de rééquilibrer ses échanges commerciaux avec la Chine? Jean-Marc.
Comment on répond? On fait du cinéma diplomatique. Tous les voyages internationaux sont bâtis de la même façon.
Oui.
C'est pas là qu'on va décider du quota d'importation ou d'exportation. On va se mettre d'accord sur un climat, on va se mettre d'accord éventuellement sur une évolution, mais on va pas régler les problèmes que la présidente de la Commission voudrait qu'on règle. Ça se règle pas comme ça. Il y a un tas de techniciens, il y a des chefs d'entreprise derrière qui fonctionnent. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est quand même importante. passionnante, mais importante. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de changer de modèle en termes de mondialisation. Hein, on a vécu depuis les années 2000 sur une mondialisation qui était simple. On délocalisait nos industries et puis on rachetait des produits fabriqués et on se faisait du pouvoir d'achat dans les pays occidentaux. C'est comme ça que ça fonctionnait. Et aujourd'hui, les uns comme les autres ont envie de changer de modèle. Ils ont besoin de changer de modèle depuis le Covid, depuis la guerre. On voit bien que Xi Jinping est en difficulté parce que il déclare 4% de croissance économique pour pouvoir intégrer à peu près 100 millions de Chinois qui viennent en ville pour essayer de travailler, attirés par la lumière. C'est
enfin,
pas
il
n'a
pas l'air d'avoir envie de changer de modèle.
Non, il n'a pas l'air d'avoir. Il a essayé, mais il ne pourra pas changer de modèle. Et il est coincé. Il y a quelques années, vous savez bien que la grande crainte des Américains, c'était de voir la Chine devenir, dans les 10 ans qui viennent, le premier pays du monde. On sait maintenant que la Chine ne sera pas la première puissance du monde. Elle restera, si tout va bien, la seconde. Xi Jinping ne peut pas donner à ses habitants, à ses clients, non pas à ses électeurs, mais à ses habitants, la consommation que ses consommateurs...
Ses électeurs, les électeurs.
Donc, parce que la liberté n'existe pas, parce que l'innovation est mal partie. Donc, il reprend le vieux schéma, c'est-à-dire que moi, j'ai des productions à bas prix, je vous envoie tout ça, et vous le consommez.
Non, le plus triste dans cette histoire, c'est qu'Emmanuel Macron, effectivement, c'est du grand cinéma médiatique que me dit Jean-Marc, parce qu'il n'y a pas unanimité des Européens sur la marche à suivre. Il y a aussi le cavalier seul des Allemands et dans une moindre mesure des Italiens finalement. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Il y a quand même un contraste entre ce que dit Emmanuel Macron aujourd'hui et Olaf Scholz qui était à Pékin la semaine dernière. C'était beaucoup, beaucoup plus mesuré quand même, fondamentalement.
Bruno Coquet.
La Chine a construit un rapport de force qui lui est favorable. Et puis nous, on l'a aidé. Alors on cite souvent Henry Kissinger qui disait « Mais l'Europe, quel numéro de téléphone ?» Le problème, c'est qu'il y en a 27. Et donc, la Chine joue sur du velours, hein, comme n'importe quel partenaire. D'ailleurs, joue sur du velours pour diviser l'Europe. Si ça passe pas par une porte, on sait très bien que ça passera par l'autre. Alors, on parlera tout à l'heure des voitures. On voit bien que c'est ouvert d'un côté, pas de l'autre. Et donc, du coup, la France peut pas faire toute seule des choses. Donc après, il pourrait être ferme sur certains produits, sur certaines filières. Xi Jinping, lui, il annonce ce qui l'intéresse comme produit. C'est les produits de luxe, les cosmétiques, les produits agricoles. Donc ça, il dit, voilà, ça m'intéresse, je suis prêt à discuter. Effectivement, ça a peu d'importance pour nous, sauf peut-être les produits agricoles. Enfin, pas en termes de valeur, puisque les produits de luxe sont...
Oui, oui.
Mais en tout cas, en termes d'échelle par rapport aux batteries ou aux produits à bas prix, finalement, on n'est pas du tout sur la même échelle. Et puis en plus, il nous tient, puisque si on ne veut pas de ces batteries, il détient les matières premières de base. Et donc,
ils ont déjà fermé les robinets l'année dernière, on a vu ce que ça donnait sur nos chaînes.
Donc du coup, ils ont construit un rapport de force en ce sens qu'ils ont investi, qu'ils continuent de subventionner des secteurs pour tuer notre industrie. Hein, donc ça, on l'a bien vu. Mais de l'autre côté, on leur facilite la tâche. Et là, on est sur une compétence... Enfin, on leur facilite la tâche. Je rappelle à chaque fois qu'on en parle.
Oui, non, mais parce qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Mais quand l'Europe s'exprime d'une seule et unique voix en disant on va mettre en place des clauses miroirs, on va vous mettre en demeure par rapport à votre dumping économique qui est complètement irresponsable et déloyal, ça c'est quand même une réponse concrète.
Très bien, elle a raison. Mais la première chose à faire, c'est d'arrêter de traiter la Chine comme le pays en développement. Qu'elle continue d'être au sein de l'OMC. Et c'est elle-même qui se définit comme ça. Nous ne sommes pas obligés de l'accepter. Oui. Ça nous conduit à accepter un certain nombre d'asymétries dans les barrières douanières, on va l'appeler les choses comme ça, qu'on n'impose pas aux Chinois, mais qu'eux nous imposent.
Nathalie, est-ce que vous avez l'impression quand même que l'Europe commence à sortir un petit peu du déni ? On voit ces enquêtes qui se multiplient, notamment depuis quelques semaines, sur les géants du solaire, sur l'éolien, sur les voitures électriques, petit à petit. Est-ce qu'on sort un petit peu du déni ? Est-ce que c'est un petit peu ce que reflètent les propos que vous avez entendus aujourd'hui, finalement ?
Je ne suis pas certaine qu'elle sorte du déni et si je veux faire de la provocation, effectivement, de toute façon, le rapport de force, comme l'a dit Bruno, il s'est construit comme ça. Les exportations de la Chine, je crois qu'elles augmentent de 10% chaque année depuis 10 ans. Bon, voilà. Est-ce que... est-ce qu'en fait on irait mieux si on faisait autrement, ou est-ce que finalement ça ne nous pousse pas à faire autre chose? Donc moi je vais provoquer un peu dans le propos. Après tout, est-ce qu'on ne doit pas prendre la Chine telle qu'elle est, et de toute façon elle va nous pousser à faire autre chose alors qu'elle, elle stagne dans son modèle? Donc moi je serais moins pessimiste sur ce point, c'est-à-dire que je pense fondamentalement que la Chine est quand même aux prises avec son modèle, qui est un modèle un peu intenable, comme l'a effectivement rappelé Jean-Marc, c'est-à-dire un pays qui a introduit le marché mais sans vraiment l'accepter. Il n'a pas d'autre choix que d'être construit sur cette exportation, parce qu'il veut pas augmenter, enfin je veux dire, il ne veut pas rentrer dans le modèle social qui a en cours.
Et pourtant ils ont essayé.
Oui,
et pourtant
mais ils ont essayé. Lui vraiment il ne veut pas rentrer dans le modèle social, il veut pas accompagner les consommateurs, il veut pas leur créer des filets de sécurité. Donc ils sont un petit peu enfermés dans leur modèle, et donc en fait ils n'ont que cette issue. Alors bon, d'accord, et je ne dis pas que ça n'a pas d'impact sur nous. Ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que finalement, de toute façon, ça s'est construit comme ça. Est-ce que du coup, il ne vaut mieux pas essayer de faire comme c'est, et du coup d'utiliser des avantages pour faire autre chose? C'est-à-dire que voilà, c'est comme ça, ça ne changera pas.
Bon. Et en gros, il ne changera pas, c'est à nous de changer.
Exactement. Voilà. Et là, il y a un autre point qui est aussi, en plus, il y a un double pour la Chine, il y a un autre problème qui lui arrive, et là, elle est quand même beaucoup plus vigilante, c'est qu'en fait, on n'en parle pas beaucoup, mais le yuan est en train de baisser de plus en plus. Et là, il sait que ça a fait un élément de plus, donc là, ce serait un peu trop, mais il n'y peut rien. C'est-à-dire que c'est la situation des taux d'intérêt et du fait qu'il a arrosé de liquidités pour soutenir son économie qui fait qu'effectivement, le yuan, on parle beaucoup plus du yen que du yuan, mais il n'empêche que le yuan ne va pas mieux, et il n'arrête pas d'essayer de le soutenir.
Oui, absolument. Le sujet monétaire, c'est un autre sujet.
Là, n'empêche qu'ils font quand même attention, c'est-à-dire qu'ils essayent, ils font en sorte qu'ils ne décrochent pas trop, parce qu'effectivement ils sont bien conscients qu'il ne faudrait pas qu'ils poussent le bouchon non plus trop loin.
Ça c'est clair, mais juste pour en revenir à votre premier point sur le fait qu'il y a cette déferlante de produits chinois à bas prix évidemment qui met à mal nos économies et notre économie, on ne peut pas dire qu'on ne fait rien, on adresse quand même les choses secteur par secteur. Sur la fast fashion, il y a combien, 2-3 semaines, on en parlait sur ce même plateau, il y a eu des mesures qui ont été annoncées qui vont faire que les produits, notamment produits par les marques Chine et autres, ne pourront plus arriver sur le sol français.
Je n'y crois pas, je suis un peu comme Nathalie. Parce qu'il va falloir à un moment expliquer aux consommateurs français qu'on les paiera 20 ou 30% plus cher. Si on interdit et si on s'oppose à l'importation de produits de grande consommation chinois, il faut savoir que c'est le pouvoir d'achat en moins. Tout le pouvoir d'achat qu'on a gagné en France depuis 25 ans, on l'a gagné grâce aux importations.
Du pouvoir d'achat en moins, mais avec ces marques de fast fashion, on achète 10 fois plus qu'avant. On n'a pas besoin de 10 fois plus de vêtements.
Ce n'est pas vous qui allez décider ce que fait le consommateur. Il décide d'aller dans le magasin.
Non, mais on peut l'aiguiller, Jean-Marc.
Ah bon, on peut l'aiguiller. Non, mais on peut le manipuler aussi. En Chine, on fait ça. C'est compliqué de le faire. Je voudrais vous dire simplement sur le modèle chinois, je ne pense pas qu'ils puissent, eux, changer leur modèle. Je suis d'accord avec Nathalie. Ils ont d'ailleurs essayé sur l'immobilier. Ils se sont cassés la figure sur l'immobilier. Oui. C'est un champ de ruines, leur spéculation immobilière actuellement. Et donc, il va falloir redresser tout ça. Et ils ne peuvent pas le faire parce que derrière ça, ils n'osent pas libérer les initiatives, l'innovation, la liberté, le droit de propriété.
Et c'est bien pour ça
regardez
que l'économie
ce qui s'est passé pendant
ne
le Covid.
Se porte pas si
c'est
bien
une catastrophe
que
ce qui s'est passé pendant le Covid.
Le taux de croissance est défini par le parti.
Mais bien sûr.
Bruno Le Maire, génial.
Ils se portent pas très bien parce qu'il leur faudrait 10% pour être bien. Ils en sont.
Non mais Bruno, on en a un taux de croissance qui est officiellement un plus bas historique. Donc imaginez les chiffres non officiels.
Mais Audrey, je voudrais ajouter un point. C'est que je ne suis pas sûr que les pays occidentaux, dont la France, soient capables d'accepter un changement de modèle. Nous ne sommes pas sans doute capable aujourd'hui de produire des biens qui pourraient remplacer au même prix ceux que les Chinois nous
vendent. Mais on a une main d'œuvre qui coûte 15 fois plus cher.
Le seul but, c'est de ne pas on veut préserver de l'industrie. Celle-là, il ne faut pas la laisser tuer. C'est tout comme les Allemands ont laissé tuer les panneaux solaires. Ils n'ont pas laissé tuer les machines.
Je suis moins sévère que toi sur les Allemands, parce que je pense que les Allemands sont en difficulté aujourd'hui. Parce que le marché chinois va péricliter. Ils sont en panne de modèle.
Et c'est bien pour pour ça qu'ils essaient de s'émanciper du joug chinois.
D'ailleurs, le chancelier chinois, le chancelier allemand, qui devait venir déjeuner à midi, n'est pas venu.
Oui, mais il a dit qu'il avait déjà prévu.
Il avait un rendez-vous ailleurs.
C'était une française.
Justement, tiens, je vous disais tout à l'heure, on a écouté Ursula von der Leyen assez cash aujourd'hui à Paris face au président chinois. Écoutez, Emmanuel Macron, un petit peu avant, c'était pas vraiment le même ton, comme on dit. Écoutez, ce matin.
Notre politique commerciale, économique, technologique n'est dictée par personne. Nous la souhaitons souveraine, c'est-à-dire indépendante. Et nous la souhaitons ouverte, confiante, mais nous voulons être en capacité de protéger nos intérêts à l'égard de tous. Elle n'est pour autant dictée par aucune montée des tensions à l'international. C'est pourquoi ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, c'est un cadre de concurrence loyal. À cet égard, je remercie le président aussi de son ouverture quant aux mesures provisoires sur le cognac français.
Bon, non, mais il a raison.
C'est pas la même.
Elle n'a ni actionnaire, ni électeur, ni client.
Et puis, elle n'a pas un déficit.
L'Union européenne est compétente
Bruno,
ne suffit pas pour réussir une entreprise.
Non, mais c'est vrai qu'Ursula von der Leyen n'a pas un déficit commercial vis-à-vis de la Chine de 40 milliards d'euros, ce qui est le cas pour la France et pour Emmanuel Macron en l'occurrence.
Le point, c'est qu'elle, en même temps, elle ne propose pas. Donc, du coup, elle montre les muscles, mais elle ne propose pas. Alors que c'est l'initiative de l'Union sur les échanges internationaux, c'est une compétence de l'Union européenne.
Bah oui, mais justement, les fameuses clauses miroirs, elles émanent bien de l'Union européenne.
On ne peut pas agir par nous-mêmes, c'est parce que à chaque fois, on va à l'encontre de la règle commune. Et donc, du coup, Ursula von der Leyen a raison, mais il faut qu'elle propose.
Non, mais les fameuses clauses miroirs, Bruno, elles émanent bien de l'Union européenne.
D'accord, on en est où ? Qui a refusé ? C'est ça la question. C'est qui dans les États membres a refusé ?
Bon, on n'a pas de calendrier. C'est ça que vous nous dites.
Jamais de calendrier.
De téléphone.
Allez, toujours pas de numéro de téléphone. Vous avez feu, Henri Kissinger.
Non, mais enfin, on s'est quand même planté. La mondialisation heureuse, et on est tous.
Ouh là là, alors attendez, parce que là, on n'a pas le temps.
Franchement, l'arrivée de la Chine dans l'OMC en 2004
était une vaste blague.
Ça a été, on s'est trompé.
Mais ce n'est plus un pays en développement. Oui. Là, voilà. C'est ça le levier. Bon.
Oui, mais pourquoi est-ce que personne ne l'a fait sortir de ce statut ? Parce qu'on manque de courage.
Ça a été très difficile.
Celui-là va peut-être la sortir.
Celui-là, il faut qu'elle le dise.
On a cru au lendemain de Tiananmen qu'ils allaient sortir. Voilà,
vous nous ferez le procès de la mondialisation heureuse d'une autre fois.
Voilà.
Parce que là, il est
19h. Pendant la pub.
Oui, si vous voulez, 19h30 en attendant.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h33 sur BFM Business, on vous parle de la filière automobile. Nous sommes avec Nathalie Janson, Jean-Marc Sylvestre, Bruno Coquet et bien sûr, le seul et l'unique, Guillaume Paul. Alors, hasard du calendrier ou pas, en tout cas c'est le jour où Xi Jinping est en France, que l'État signe avec les professionnels de l'automobile un nouveau contrat de filière qui fixe donc les objectifs pour les 4 prochaines années. Et l'objectif fixé par Emmanuel Macron, c'est de vendre 800 000 véhicules électriques en 2027.
C'est très ambitieux, mais l'objectif ne change pas. Alors Bruno Le Maire l'a dit ce matin, peut-être parce que le président chinois était de passage, il fallait marquer le coup, il a dit oui, les Chinois sont bienvenus, BYD est le bienvenu, mais nous en Europe, faut quand même côté français qu'on accélère. Écoutez.
La préférence est donnée à des véhicules qui ont l'empreinte carbone la plus faible. Le choix n'a pas été fait en fonction de l'origine du pays du véhicule électrique. Et l'industrie automobile chinoise est la bienvenue en France. Si demain BYD souhaite ouvrir un site industriel de production en France, il est le bienvenu. Nous avons d'autres constructeurs étrangers qui ont fait ce choix dans les années passées, je pense à Toyota, et nous n'avons eu qu'à nous en féliciter.
Oui, voilà. Bon. Comment arrêter cette folie furieuse d'importation de véhicules verts sur le territoire français, donc qui sont dits bons pour la planète, alors qu'on les importe de l'autre bout du monde, Jean-Marc.
Moi, je vais simplement dire que je ne me félicite pas de l'arrivée de ces investissements étrangers, parce que ces investissements étrangers apportent bien sûr du travail, ils apportent bien sûr des emplois, mais ils apportent aussi des administrateurs qui un jour prendront le pouvoir dans ces entreprises-là, comme à Toyota, et puis peut-être
ils
aussi qu'ils restituent,
Toyota, ils ont au, pays Toyota, ça,
qu'ils restituent au pays d'origine des revenus pour payer leurs retraités à eux. Donc il faut quand même qu'on trouve, nous, les moyens de financer nos propres filières au niveau européen et nos propres industries si l'on veut réussir cette réindustrialisation.
Mais oui, mais,
de l'Europe.
C'est le fameux Buy European Act.
Non, c'est le fameux plan d'unification du marché des capitaux.
Oui, bah, bien sûr.
En rade.
Oui, absolument.
Alors,
mais
il faut absolument que le rapport Noyer sorte. Il faut qu'il rejoigne les autres rapports qui ont été faits. Les Allemands sont pratiquement d'accord pour pouvoir unifier un marché des capitaux. Enfin, je n'ai pas sous votre contrôle. Et je crois qu'il faut qu'on a... Vous savez, vous parliez de la dette française, 3 000. L'épargne française est de 6 000 milliards.
Historique.
C'est une épargne qui dort. L'épargne globale recensée par toutes les rapports, les 3 ou 4 rapports qui ont été faits, elle est de 34 milliards. L'épargne dormante au niveau européen, elle est de 34 milliards.
Et qu'en fait-on?
Elle sert à quoi? À rien, pour l'instant. Ou pas à grand-chose.
Bruno Coquet.
Il faut la. Oui, il y a 15 jours, on discutait de la marge opérationnelle des constructeurs automobiles.
Oui.
Bon, on est dans des plus hauts historiques. Ont-ils besoin de subventions publiques aux ventes? Première question, je ne pense pas. Deuxième question.
Non, mais on parle de toute la sous-traitance, Bruno, c'est
d'accord.
Ça.
D'accord. Le point, c'est. Mon deuxième point, pardon, c'est le précédent contrat. Le précédent contrat, moi, je n'ai pas vu d'évaluation. J'ai cherché, du coup...
Attendez, vous parlez du contrat stratégique de la filière automobile signé en 2019.
Avec les bonus, on suit le deuxième opus, là.
Ouais.
Oui. Entre-temps, quand même, il faut voir que la production automobile française, elle a baissé d'à peu près 25%.
Oui. Alors, d'accord, la production et, de l'autre côté, les achats aussi. Hein.
Oui.
Globalement, tout baisse.
Moi, je regarde la production, puisque ça, ce n'est pas pour soutenir les ventes, c'est pour soutenir la production. Donc, du coup, quand même, 25%, c'est considérable.
C'est énorme.
Des constructeurs qui augmentent leur marge opérationnelle, la production qui baisse de 25%.
Parce que les ventes ne se font pas ici, tout simplement. Le gros des ventes.
Mais non, mais c'est, non, mais c'est même pas vrai. Ça. Le point, c'est qu'on achète des voitures ou slovaques, produites au Maroc aussi. Donc, le point, c'est qu'on est dans un univers européen. Que ce soit produit dans un pays ou dans l'autre, c'est pas très grave. Il se trouve que moins 25% en France, c'est gigantesque. On a divisé la production par plus que 2 en 20 ans. Mm-hmm. Donc, du coup, s'il y a un contrat à faire, il faut quand même. Si on veut des sous-traitants, puisque ça concerne toute la chaîne de valeur, il faut quand même qu'au bout du compte, on produise des voitures ici.
Ah, mais on est censé produire d'ici 2030 2 millions de véhicules électriques sur le sol français.
Et en vente 800 000. Mais le problème,
800 000 en 2027, vous vous rendez compte, c'est dans 3 ans. Alors.
Quelle valeur
300 000 l'an dernier.
Est-ce que c'est des batteries qu'on va importer? Est-ce que c'est des batteries? On y en a une bien partie sûr qu'on va produire ici dans le nord de la France. Mais bon, il va nous falloir les matières premières chinoises aussi.
Les composants.
Enfin, le problème, c'est quand même, il y a un sujet. Qu'est-ce qu'a donné le précédent plan? Et moi, si je regarde juste la production de l'industrie automobile, alors ça concerne aussi la distribution, mais les Pays-Bas vivent très bien sans production d'automobile. Hein. Donc du coup, si je regarde seulement la production d'automobile, c'est un échec cuisant.
C'est vrai que dans les chiffres qui ont été donnés, on s'est attaché plus aux ventes dans la précédente évaluation. Ouais, les chiffres sont sortis, on s'attachait plus aux ventes qu'à la production.
Oui, c'est vrai, mais ça veut dire que ce 1,5 milliard, mais c'est quand même énorme, 1,5 milliard, ça n'a servi à rien.
Oui, mais c'est pas plus que le...
Non, mais attention, le gouvernement dit qu'il va continuer avec le bonus et continuer avec le leasing social.
Voilà.
Mais il ne donne pas les paramètres. Si le bonus-malus il porte sur des taux de CO2 qui diminuent, le gouvernement va dépenser moins aussi, ce qui n'est plutôt pas une mauvaise chose. Mais en tout cas, moi je dis, on n'a pas regardé le résultat du précédent contrat, on en signe un nouveau et si je regarde le bout du bout, c'est est-ce que c'est des emplois, est-ce que c'est de la production industrielle, le résultat du précédent contrat? Non, c'est plus d'importation de véhicules, qu'ils soient électriques ou pas.
Et c'est financé sur fonds publics.
Mais oui, bien sûr, c'est extraordinaire. Bon, voilà. Alors qu'ils ont des marges opérationnelles gigantesques.
Pendant ce temps-là, les effectifs des salariés dans le secteur auto continuent de baisser en France inexorablement, année après année. Voilà, il y a plus en plus de... Nathalie,
je ne ferai que conforter ce que Bruno vient de dire. Je pense que on marche sur la tête, quoi. On est en train de financer. Alors, comme il l'a dit, on n'est pas obligé d'avoir... autant de constructeurs, et il y a des pays qui n'en ont pas et qui se portent très bien, donc il ne faut pas non plus voir dans le fait que certains constructeurs aient du mal, la fin du monde déjà est d'une, même si je comprends que c'est toujours, le fait de transformer n'est pas toujours bienvenu, mais c'est surtout l'utilisation effectivement de l'argent public et dans quel but, et on voit bien qu'effectivement, on a beau, alors ça c'est la culture française, c'est qu'on n'a jamais de politique d'évaluation, donc là c'est encore un exemple de plus,
zéro,
qu'il n'y a aucune évaluation, et c'est vrai, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller dépenser de l'argent, alors qu'ils ont des marges en ce moment, pour aller soutenir visiblement une production qui, de toute façon, effectivement, ne trouve pas, enfin, les débouchés sont, parce que les ventes ont aussi baissé, puisque apparemment, les consommateurs sont dans l'incertitude, donc ils ne bougent pas, ils attendent.
Bien sûr.
Et il n'y a pas un succès mérifique de la voiture électrique. Et si on regarde aussi dans d'autres pays européens, on avait les chiffres allemands, c'est pareil. C'est-à-dire que dès lors où ils ont enlevé les aides, en fait, il n'y a plus de vente. Donc,
oui, c'est vrai, absolument.
Le produit est trop cher.
Exactement. Donc, voilà. Ça veut dire que les autres chers, on s'est tenus, ils sont quand même.
Mais alors, justement, comment est-ce qu'on répond à cette équation assez compliquée de dire il faut produire sur le sol français? C'est ce que certains gros acteurs de la filière font, comme évidemment Renault. Ce n'est pas le cas du tout de Stellantis, puisque Stellantis dit ah ben non, parce que si on produit en France, on va être beaucoup trop cher, et nous, on veut pouvoir proposer des véhicules abordables aux consommateurs. Alors, qui a raison ?
Si on veut produire français, il faut faire venir des producteurs, des investisseurs, des capitaux étrangers, alors qu'on pourrait organiser quand même tout ça. Il y a des entrepreneurs chez nous. Hein,
oui, mais il n'empêche que le coût de la main-d'œuvre fait que la voiture produite en France, elle sera plus chère que la voiture produite à côté.
Qu'il y a une recherche. Je propose de donner de l'argent à BYD. Pourquoi on ne donne pas à Stellantis, honnêtement ?
Moi, pour qu'ils produisent en France.
Mais oui, bien sûr. On se battait pour donner 10 milliards ou 5, je ne sais plus, à Tesla, pour avoir l'usine Tesla. Mais pourquoi Tesla ? Pourquoi pas Renault ou Peugeot, et pourquoi pas des contreparties aux aides, tout simplement. Donc, moi, je trouve que l'État organise assez mal son affaire. Aujourd'hui, on reproche à Carlos Tavares de dire, ah bah oui, il signe un contrat avec Lips, qui est un fabricant chinois, alors que par ailleurs, il dit, il faut pas d'usine chinoise. Mais il a entendu ce qu'on lui a dit. On lui a dit en 2035, c'est de la voiture électrique pas chère. Donc, du coup, il suit l'incitation qu'on lui donne. Simplement, ces incitations change du jour au lendemain. Et donc, on ne peut pas avoir des business plans crédibles si on change les incitations des entrepreneurs du jour au lendemain. Et en plus, on a cette fragilité qu'on change les incitations du consommateur. Pourquoi ? Parce qu'on a un produit dont la technologie évolue très vite. Oui. Et donc, les gens sont aussi dans une situation
d'attente. Avec une grosse avance de la part des Chinois.
Hein. Non, mais... je ne sais pas quelle avance on parle. Le point, c'est que sur les temps de charge, sur l'autonomie, sur le coût de réparation, la technologie change à très grande vitesse et les consommateurs l'ont compris. Ils ont compris qu'une voiture électrique d'il y a 2 ans, sur le marché,
moins performante.
Donc, du coup, on a un sujet là-dessus.
Un rappel sur les prix, puisque vous parliez des prix tout à l'heure. On rappelle que les voitures chinoises ont été exclues pour des raisons non avouées du bonus écologique, alors que ce sont quand même les modèles les plus abordables aujourd'hui sur le marché. Il n'y a qu'à voir la MG4 jusqu'au bout, les commandes s'accumulent.
Il faut les réparer.
Ouais, mais voilà une réponse européenne.
Mais qui ne se répare pas. C'est des modèles qui ne se réparent pas.
Non.
Puisque les batteries ne sont pas des modules peut changer indépendamment, mais des blocs qu'il faut changer en totalité.
Et oui. Bien, voilà donc pour ce contrat de filière auto, 4 ans donc signé ce matin, l'État qui remet 1,5 milliard d'euros pour tenir ses objectifs. 800 000 véhicules vendus en 2027, c'était 300 000 l'an dernier, vous voyez que ça va très très bien. Il y aura peut-être des annonces concernant BYD, je vous rappelle ce rendez-vous si vous nous regardez à la télévision, Choose France avait le grand événement mensuel organisé par Emmanuel Macron du côté de Versailles, ça sera le 13 mai, c'est dans 15 jours, et nous y serons, BFM Business, nous y serons. Donc là, il y aura plein d'annonces d'investissements étrangers en France, peut-être que BYD sera de la partie, on verra bien ce que nous dira Emmanuel Macron ce jour-là. C'est dans une semaine, je vous dis, c'est dans 15 jours, c'est lundi prochain. Oui. Nous y serons quand même, malgré tout. On va dire un mot de la campagne des élections européennes, parce que figurez-vous que désormais, tous les lundis jusqu'à l'élection de juin, BFM Business fera un focus sur un grand sujet de campagne, et aujourd'hui, on voulait vous entendre sur l'Europe de la défense.
Oui, alors cette Europe de la défense qui a bien du mal à devenir une réalité, même si s'unir pour se défendre, ça figure, rappelez-vous, dans le fameux traité de Maastricht d'il y a plus de 30 ans. Il faut accélérer, disait ce matin sur BFM Business Emmanuel Chiva, le délégué général à l'armement. Alors pour lui, il faut accélérer les coopérations industrielles. Écoutez.
Que maintenant, il faut se consolider sur le fait de faire véritablement à la fois des synergies industrielles, on en a parlé, des synergies technologiques. Et là, des instruments comme le Fonds européen de défense nous permettent de développer des briques technologiques ou scientifiques qui vont être utilisées par l'ensemble des États membres. Et puis aussi des synergies opérationnelles. On voit ce qui se passe par exemple dans notre collaboration avec la Belgique, où aujourd'hui on collabore dans le cadre du programme Scorpion, donc les véhicules de dernière génération, véhicules blindés et systèmes de combat terrestre du futur, si j'ose dire. Nous entraînons avec la Belgique, nous développons des concepts avec elle. C'est sans doute un modèle qui mérite d'être élargi.
Et oui, parce que pour le moment, on a une loi de programmation militaire qui court sur 7 ans. Maintenant, il faut que cette loi, elle se traduise notamment dans les carnets de commandes et on n'a pas beaucoup de visibilité. En tout cas, on n'en a pas à plus de 12 mois. C'est ce que nous disent les entreprises.
Non,
il faut absolument débloquer.
Alors, encore une fois, c'est un sujet sur lequel nous ne sommes pas d'accord.
Et, allez-y.
Non, mais, et c'est pas qu'on n'est pas seulement d'accord sur un plan uniquement économique. On n'est pas d'accord sur un plan stratégique. Enfin, on a des points d'accord, mais fondamentalement, on voit bien que ce que la France tentait de vendre comme Europe de la défense il y a quelques années en arrière n'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Donc déjà, quand j'écoute dans le discours d'Emmanuel Macron, il vend quand même une vision française des choses aux Français. Bon, donc après ça, la guerre en Ukraine a permis de nous mettre d'accord sur
De réveiller l'Europe quand même. Voilà, ça c'est clair.
De révéler les choses,
notamment sur les financements.
Sur les financements, sur les dissensions, sur le fait qu'on achète énormément de matériel américain. On parle du sujet dont on ne parlait plus depuis des années, qu'en disant oui, il faut moins de dépenses et puis il faut juste quelques troupes de luxe qui peuvent intervenir à l'autre bout du monde.
Parce qu'on se réfugiait derrière le parapluie de l'OTAN, tout simplement. Il n'y avait pas de sujet à ce niveau-là.
Oui, mais bon,
ce qui est sujet qui pourrait émerger dans quelques mois.
Oui, alors sauf que l'OTAN a imposé à chaque pays de l'Union européenne d'investir 2% de son PIB, et c'était pas du tout le cas. Alors que là, ça y est, en tout cas, ça a remis tout le monde sur les rails.
Non, mais c'est absolument indispensable. Il faut que ça avance d'une façon ou d'une autre, au forceps si possible, s'il n'y a pas d'autre moyen. Europe de la défense, parce que derrière, effectivement, il y a un potentiel industriel et économique considérable. Si on regarde ce que font les États-Unis comme matériel et comme militaire dans leur PIB, c'est important quand même, hein, dans leur phénomène de reprise. Bon, premier point. Deuxième point, il faut que parallèlement à ça, il y ait les plans industriels. Et troisième plan, le plan de financement, ce dont on parlait il y a un instant, sur l'Europe des marchés des capitaux. Mais c'est là où ça bute politiquement, hein, vous avez raison, hein, politiquement. Mais quand on regarde dans l'histoire de l'Europe, toutes les grandes avancées qui ont été faites dans l'Europe, elles ont été faites sans le soutien des opinions publiques et souvent contre l'opposition d'un certain nombre de pays membres.
Oui, mais et il faut une volonté politique.
Aujourd'hui, qui avait la volonté politique de faire l'euro? Il y avait deux personnes qui voulaient faire l'euro en Europe. Hein, François Mitterrand et Helmut Kohl. Oui. Et ils ont fait l'euro. C'est passé à un cheveu. Et aujourd'hui, qui veut sortir de l'euro? Personne. Tout le monde se bouscule pour rentrer dans l'euro. Oui. Donc il faut effectivement un énorme courage politique et il faut avoir le courage
politique. Il faut une
vision commune.
Il faut des hommes providentiels.
Il faut des gens providentiels. Je pense que sur la défense, on a la conjoncture géopolitique d'une part et économique d'autre part permet à une initiative, et la France est la mieux placée pour pouvoir prendre cette initiative.
Mais avec qui? Ah bah elle prend le lead, hein, ça c'est
eh bien
clair,
il va falloir
mais, là elle veut vraiment prendre le lead, mais on se demande
est-ce que c'est à l'Allemagne
les Anglais sont pas opposés à ça.
Est-ce que c'est à l'Allemagne qu'il faut s'arrimer?
Enfin voilà, mais c'est à l'Allemagne qu'il faut s'arrimer, parce que l'Allemagne a un certain nombre de moyens de financement aussi qui pourraient nous aider.
Oui, mais l'Allemagne c'est pas dans son logiciel.
On a quand même financé la défense nationale allemande pendant 30 ans.
Il y a l'Allemagne, mais il y a aussi d'autres pays qui ont des savoir-faire.
Les Pays-Bas,
l'Espagne, l'Italie, la Suède, enfin, la République tchèque, enfin, il y a des gens qui savent faire des armes.
Si vous voyez un petit peu les imbroglios quand on discute sur tel ou tel projet industriel qui avec les Allemands.
Le
point, c'est qu'il faut se mettre d'accord sur les intérêts stratégiques. Ça, je pense qu'on y arrive, comme le dit Jean-Marc, assez bien. Et après, on n'a pas besoin de traiter.
Non.
Il y a juste besoin d'accord entre entreprises, entre pays, mais ça peut être à géométrie variable.
Qui va faire quoi? Partage des compétences, partage des... Voilà, Nathalie, comment
est-ce que... Je pense que c'est il faut surtout pas attendre des traités ou
les Polonais vont venir.
De grandes signatures.
Les Polonais ont déjà manifesté leur volonté de venir.
Oui, parce qu'ils ont... On a chacun des spécificités, donc on peut apporter, on peut avoir des projets à géométrie variable selon les termes. Oui, et puis quand même, cette loi de programmation militaire qui court donc sur 7 ans, c'est 400 milliards d'euros à dépenser. C'est une première historique le sujet. Donc, enfin, les choses avancent. Mmh. Oui.
Il y en a déjà beaucoup qui sont dépensés, pour tout ce qui est hommes, etc. Enfin, et puis entretien, renouvellement, c'est pas la part investissement nouveau, elle est pas gigantesque. Et puis dans ce que disent le délégué général, il y a des questions de recherche et développement aussi et de développement.
Non, franchement, on peut faire beaucoup de critiques au président de la République française actuellement. Il y a un point sur lequel on peut pas le critiquer. C'est une espèce de volontarisme en matière de faire l'Europe de la défense et de se défendre, notamment de l'invasion russe. Et le point qui est très faible du voyage Xi Jinping, c'est qu'il n'a pas avancé sur le règlement de la question ukrainienne.
Hein. Oui, pas du tout.
En revanche, il a quand même...
Ça, c'est
quand même
à l'agenda. On espère toujours naïvement faire...
Ça va se régler sur la position russe. Pyrénées demain.
Voilà, l'Europe de la défense.
À l'agenda demain.
Deux grosses minutes avant vos avis. Est-ce que vous voulez dire un mot de Bernard Pivot, qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 89 ans?
Jean-Marc, c'est triste. Ben, que voulez-vous ? Moi, c'est ma génération. Enfin, c'est pas ma génération, mais c'est, j'ai appris à lire avec lui. Et là, oui. Il m'a d'ailleurs appris l'orthographe aussi, quelque part. Bah, que voulez-vous, c'est
carrément.
C'était une époque où il y a la télévision a commencé, il a commencé en noir et blanc et après c'était. Je pense qu'il a diffusé, qu'il a aidé à la diffusion de la lecture, qu'il a fait connaître un certain nombre d'auteurs, il a fait comprendre qu'il y avait un certain nombre de gens qui n'étaient pas des écrivains, mais qui avaient aussi des choses à dire par le livre. Il a invité des chefs d'entreprise, des hommes politiques. Déjà, je trouve ça extraordinaire, le travail de pédagogie qu'il a fait, en toute humilité, parce que et en toute gentillesse, parce qu'il était extraordinairement gentil.
Et avec beaucoup de talent.
Absolument.
Oui.
Nathalie.
Oui, il était incomparable. Enfin, moi, c'est pareil. Enfin, moi, j'ai vraiment grandi avec lui. Enfin, c'était vraiment l'émission qu'on regardait, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chaînes déjà. Donc,
c'était vendredi soir.
C'était bien, exactement, vendredi soir. Et puis, il avait effectivement ce talent d'inviter. Il y avait une grande diversité sur ses plateaux. Oui. Puis après, il y a eu des émissions mythiques. Enfin, voilà. C'était. Voilà, il y a vraiment des grands souvenirs avec lui. Est-ce que. Alors, moi, je me souviens d'un point, c'est qu'en fait, sa fille disait que c'était dur d'être un enfant. De Bernard Thibault. Non, mais tout simplement parce qu'il était en permanence enfermé dans ses livres.
Ah ouais.
Donc en fait, effectivement, il avait ce grand message. Il a vraiment fait une preuve de diffusion de la littérature auprès du grand public. Mais finalement, il n'était pas disponible pour ses proches. Donc on voit que c'est pas toujours facile de combiner les deux.
Bruno, il a fait vendre les livres.
C'était un plaisir de regarder Apostrophe. Il y a plein de livres que j'ai achetés que je n'aurais pas achetés autrement probablement. Et il y avait, enfin, c'était des émissions en direct, hein, parce qu'on avait pas de rythme à l'époque.
Et des épisodes
que beaucoup ont essayé de singer depuis, mais où on entend beaucoup de récits, de dossiers de presse aujourd'hui dans ces émissions-là, alors qu'avant, enfin du côté de l'émission de Bernard Pivot, il y avait une chaire, enfin, il y avait quelque chose de, il avait lu les livres, les gens autour du plateau les avaient souvent lus aussi, donc il y avait un vraiment quelque chose.
Oui, non, mais c'est clair que d'Apostrophe, parce qu'on a beaucoup parlé d'Apostrophe, mais aussi on peut parler de Bouillon, de Culture, il a imposé la littérature à l'écran, grand amoureux de la langue française. Non mais voilà, et en fait,
ils avaient la liberté de dire un certain nombre de choses. On n'aurait plus la liberté.
Une liberté totale, en effet, avec des invités pas toujours sobres sur les plateaux d'ailleurs.
Non, non,
sobres, il faisait le charme de ces émissions.
Il y avait quelques épisodes.
Non, et quand même, l'énorme charme d'avoir deux ou trois chaînes uniquement à la télé, c'était qu'on avait tous en commun d'avoir ce débat d'écrivain le week-end.
C'était fédérateur.
Hyper fédérateur. Et je vous partage ces mots qu'il a dit à Darius Rejbain lors d'un de ses derniers entretiens, si j'emporte un dernier mot au jour de ma mort, ça sera demain. J'ai trouvé ça très joli.
Très bon.
Voilà.
De Bernard Thibault, qui nous attend. Je retiens le questionnaire de Proust, moi, qui était toujours...
Oui, oui, questionnaire de Proust, c'était génial.
Petite cerise sur le gâteau. Bon, en parlant de cerise, 3 minutes sur le gâteau, c'est l'heure de l'extra time, comme tous les soirs. Notre moment, vos coups de gueule, vos coups de cœur sur 30 secondes, c'est la règle impitoyable de cette émission. Qui va commencer? Bah, Bruno, tiens, va commencer.
Une bonne nouvelle, c'est pas tout
alors,
le temps.
Ah oui, alors là, je vais tomber de ma chaise.
Le taux de chômage baisse. Hein, Eurostat a sorti ses chiffres.
Xi Jinping qui vous a glissé ça à l'oreille.
Ah non, pas du tout, pas du tout. Et donc, du coup, parce que la France, il faut attendre le 17 mai pour avoir le taux de chômage.
L'inflation est à zéro.
Et donc, mais Eurostat le calcule un peu différemment de la France, le sort un peu avant. On était à 7,5 dans le chiffre Eurostat à la fin de l'année dernière. On est à 7,3 aujourd'hui. Alors, ça baisse pas chez les jeunes et ça baisse pas chez les femmes, mais on voit quand même que de ce côté-là, il y a plutôt une bonne nouvelle.
Eh ben, Bruno Coquet, positif et optimiste, tout arrive.
Qui continue? Allez, Jean-Marc. Parce
que moi, je voulais retourner en Chine pour vous parler de Xi Haomin, qui est une jeune femme de 30 et quelques années, qui est la fille unique de Xi Jinping et de sa femme actuelle, de sa femme, c'est qui sa deuxième femme, c'est sa femme, qui est une ancienne actrice, qui est une star immense à Pékin. C'est une star énorme, qui l'a beaucoup aidée. Et il se trouve que Xi Haomin, sa fille, a fait ses études à Harvard. Les Américains disent qu'elle a la nationalité américaine et que un président comme Xi Jinping, entouré par ses femmes, ne peut pas être totalement méchant.
Bon, ça ne se traduit pas forcément encore dans les faits, mais...
Nathalie,
allez. Bon, avec qui ?
Alors moi aussi, c'est un coup de cœur, encore une fois. Et c'est pour un article que j'ai trouvé très original par Julien Damon, qui vient ici de temps en temps, sur l'introduction ou la réintroduction des uniformes au service, pour les personnes qui travaillent au service au public. Et je trouvais que c'était très drôle comme idée, parce qu'il disait, après tout, pour essayer de rendre les gens fiers de ce qu'ils font et d'imposer un certain sérieux, eh bien, pourquoi pas, après tout, il y en a bien dans le train, il y en a bien chez Air France, pourquoi est-ce qu'en fait, dans l'administration, on n'utilise pas comme signe distinctif?
Dans toutes les administrations.
En tout cas, pour certaines, ils ne disaient pas toutes, mais en tout cas, pour certaines,
c'est le gong chinois.
Pour essayer de redonner du lustre
au service public de la télévision.
Au service public de la télévision, à France TV, il y aura des
gens qui sont pas mal. Je vous vois bien en uniforme.
Ils sont tous tout à fait en uniforme chez France TV, comme ça. Ça aurait poussé le truc au paroxysme. Un joli gong chinois, effectivement, pour sonner la fin de cette émission. Merci à tous les trois d'être venus. Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School, Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste à Atlantico, Bruno Coquet, docteur en économie et chercheur associé à l'OFCE. Merci beaucoup et très vite avec plaisir. 19h56, c'est fini.
Oui, c'était bien, mais c'est terminé. C'est comme ça. Ceci dit, le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com. C'est en replay, c'est en podcast. Et puis, bien sûr, on se retrouve demain soir.
Bah, évidemment qu'on se retrouve demain soir. 18h-20h en direct pour Nouvelles Aventures. François Sorel, Tech & Co. dans un instant. Très bonne soirée.
À demain.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.